seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going in everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Donc, l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un globe trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous, bienvenue pour le 13e numéro d'Il regarde le monde tourner. Astérix, eh bien, il est chez les Pictes, vous le savez, non? Et pendant ce temps, les Bretons résistent, encore et toujours à l'envahisseur. Alors Panoramix est parti avec les deux compères moustachus en Écosse, et il ne reste plus aux révoltés de l'Armorique que d'affreux bonnets rouges en guise de potions magiques, dont on pensait pourtant la mode enterrée avec le commandant Cousteau.
Alors Astérix, rien de spécial?
Non. Ah si, j'ai assommé 4 Romains.
Ah bon?
Et les Romains, bah oui, parlons-en. Justement, puisqu'il se trouve que la compagnie Ecomove, chargée de l'implantation des fameux portiques, eh bien elle est italienne, et que le dispositif doit lui rapporter 20% des 1,15 milliard d'euros par an prévus comme recette pour cette écotaxe, soit 250 millions d'euros, chiffre énorme, pour un partenariat public-privé classique où la norme se situe plus autour des 2 à 3%, nom d'un menhir.
Miam, miam, sanglier, hein.
Et le plus drôle dans l'affaire, c'est que le contrat, signé par le précédent gouvernement, et qui empoisonne celui de Jean-Marc Ayrault, il l'a été, je vous le donne en mille, le 6 mai 2012. Oui, le jour de la défaite de Nicolas Sarkozy. Drôle de cadeau d'adieu. Bref, entre les combines présidentielles et les Bretons dessoudeurs de portiques, oui, ils sont fous ces gogos, ils sont fous ces Gaulois.
Ils sont fous, ils sont fous. Je veux le monde.
Alors comme la troupe de la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille, moi, loin de la folie hexagonale, je veux le monde, oui. Et je vous emmène en croisière dans l'océan Atlantique. Escale dans les îles Selvagen, les îles sauvages, petit archipel portugais entre les Açores et Madère, qui compte 3 îles principales et 12 îlots et rochers. La plus grande île de l'archipel, Selvagen Grande, a une forme grossièrement circulaire d'1,5 km de diamètre, un gros confetti au milieu de la mer donc. Mais des confettis convoités. En effet, les îles sauvages font l'objet d'une vieille querelle intermittente mais récurrente entre Lisbonne et Madrid. Leurs différends diplomatiques, eh bien, il est d'ailleurs examiné actuellement par l'ONU. Conflit ? Vous avez dit conflit ? Et The Fight, comme le chantait à l'instant Sia, pour les îles Selvagen, eh bien, il remonte à la découverte des îles. C'est en 1438 que l'explorateur portugais Diogo Gomes déclara avoir découvert ces îles par hasard, alors qu'il revenait de la côte de Guinée. Mais les îles ne font pas l'objet d'une prise de possession en bonne et due forme à l'époque, et au XVIe siècle, par exemple, une famille de Madère en est propriétaire. Il faut en réalité attendre 1938 pour que le Portugal se voit reconnaître auprès de la SDN, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU, sa souveraineté sur les îles sauvages, qu'il rachète d'ailleurs en 1971 et transforme progressivement en parc naturel. Mais dans ce tableau ultramarin, l'Espagne joue les troubles faites. et elle a porté réclamation devant l'ONU. Pour elle, les îles sauvages sont peut-être sauvages, mais ce ne sont pas des îles. Des génies sur Transistor à l'instant, certainement le meilleur groupe de drum and bass, Pendulum, et la partie 1, Dawn, de leur titre The Island. Bon alors on quitte ces musiciens atmosphéristes de génie, même si c'est vrai que vu du ciel, les îles sauvages semblent si petites. Mais île ou pas île, comme le conteste l'Espagne au Portugal, quelle différence me direz-vous ? Eh bien une différence énorme aux enjeux économiques et stratégiques. En effet, selon le droit international de la mer développé par les accords de Montego Bay à partir de 1982, la possession d'îles est une des clauses de l'extension des zones économiques exclusives des États côtiers, c'est-à-dire de leur espace maritime sur lequel ils exercent des droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources. Nous y voilà. Grâce aux îles Selvagen, donc, le Portugal exploite son littoral jusqu'à 200 miles, c'est-à-dire 370 km de ses côtes. Mais si le gouvernement espagnol arrive à prouver que ces territoires sont des rochers inhabités et pas des îles, eh bien l'espace maritime portugais, quick, ne pourra plus s'étendre que sur une bande de mer de 12 miles marins, c'est-à-dire 22 km. Ben oui, c'est pas pareil. Alors les enjeux, vous l'avez compris, ils dépassent le cadre des seules petites îles sauvages. Ce qui explique que les tensions puissent être musclées entre Portugal et Espagne. Big Jet Plane, chantaient à l'instant Angus et Julia Stones. Et des avions de chasse espagnols, ben y en a, dans le ciel portugais des Selvagen. Et des avions qui signifient une atteinte à la souveraineté portugaise, vous l'aurez compris. Des avions comme une provocation, et même une revendication. Les premiers survols y datent de 1996, qui fut une véritable année de tension, avec plus de 3 survols la même année, ce qui poussa en mai 1997 les ministères portugais et espagnols de la Défense à signer un accord encadrant les survols des îles Selvagen. Mais rien n'y fit. Quelques mois plus tard, de nouveaux survols espagnols de l'île eurent lieu, et encore récemment, puisqu'un autre survol espagnol a été perpétré en juin 2007, déclenchant de vives tensions entre Madrid et Lisbonne. Et ces avions dans le ciel des Selvagen, ben vous l'aurez compris, c'est loin d'être des paper planes, comme le chante M.I.A. Mais les tensions autour des îles sauvages, elles ne se déroulent pas exclusivement dans le ciel. En 1975, par exemple, des marins originaires des îles Canaries avaient débarqué sur les îles Selvagen, oui, et y avaient planté un drapeau espagnol. Les marins espagnols, d'ailleurs, soutenus plus ou moins par leur gouvernement, qui en tous les cas ne doit pas voir d'un mauvais œil leur action, eh bien, sont des acteurs importants de ce conflit. En effet, les eaux autour des Selvagen sont poissonneuses. Et à cause de la zone économique exclusive des Portugais, eh bien les marins espagnols se voient interdits, ce secteur pourtant attractif. Devant l'enjeu économique, les tensions se crispent. Donc, comme le 8 juillet 2005, quand un des gardiens de l'île Selvagem Grande et un biologiste furent menacés par un groupe de pêcheurs espagnols. Suite à cet incident, loin d'être mineurs, 10 marins portugais de l'armée donc, furent affectés à la surveillance de l'île pendant un mois.
Il n'est pas frais ton poisson ?
Quoi, il n'est pas frais ?
Il est pas frais ?
Sentez-moi ça ! Si. Il est frais mon poisson !
Ça sent pas bon ça ? Ça sent pas la mer ça ?
Pas frais ?
Si, il est frais.
Il est pas frais.
Mais si, il est frais.
Il est pas frais.
Non, non, il est pas frais.
Mais si, il est frais.
Il est pas frais. Il est frais.
Bon, frais ou pas frais, si dans le village gaulois, le poisson est objet de débat, sur les îles sauvages, il est enjeu de conflit. Alors, pour garder la main, le Portugal a fait des îles Selvagem un parc naturel sous la surveillance de plusieurs gardiens. Ainsi, il a fait d'une pierre deux coups. Non seulement l'argument selon lequel les Selvagem ne sont pas des îles, parce qu'elles ne sont pas occupées, ne tient plus, puisqu'il y a à l'année des gardiens, auxquels il faut rajouter des scientifiques venus étudier la faune et la flore, riches et préservées, des îles sauvages. Mais en plus, la sanctuarisation des îles, eh bien elle permet de tenir définitivement à distance les convoitises des marins espagnols. Bref, on ne plaisante pas avec les îles sauvages. D'ailleurs, depuis 40 ans, tous les présidents portugais sont venus en visite officielle dans ces îles perdues, afin de bien montrer à tous, et surtout à l'Espagne, que ces îles, oui monsieur, sont portugaises.
For wild is a wind. You touch me. I hear the sound.
La voix unique de Nina Simone sur Transistor est Wild is the Wind. Oui, sur les îles sauvages, Wild is the Wind, et ce n'est pas le gardien de Selvagem Grande qui va me contredire. C'est l'unique habitant à l'année de l'île, et sa vie, eh bien, elle est hors du temps. Pas d'avion, pas de ferry, pas de voiture ici. Le seul moteur que l'on peut entendre de temps à autre, c'est le moteur de son canot pneumatique. Pas de route, pas de magasin. Et en dehors de la douzaine de visiteurs occasionnels, navigateurs ou scientifiques, pas d'autres êtres humains. La maison du gardien, elle se niche dans la seule crique de Selvagem Grande qui soit située à l'abri du vent. Et quelle que soit la direction vers laquelle il se tourne, eh bien la mer est là. Depuis la fenêtre de sa cuisine, il voit les rouleaux qui s'engouffrent avec fracas dans les grottes au pied de la falaise. En gravissant un sentier escarpé derrière la maison, il aboutit à un plateau d'où il jouit d'un panorama à 360 degrés à couper le souffle sur l'océan. L'eau est parfois bleu profond, parfois argentée. Bref, il ne manque plus à ce paysage qu'un morceau de Lou Reed en fond sonore, Take a Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Loin de tout, voilà la vie des gardiens des îles sauvages, qui alterne 3 semaines de travail et 10 jours de congé. Toutes les 3 semaines, donc, il y a un navire de la marine portugaise qui vient assurer la relève depuis Madère, à 12 heures de navigation tout de même. Ce bateau, il apporte tout ce dont l'île a besoin, depuis les bagues en plastique qui servent à marquer les oiseaux qu'on étudie sur l'île, jusqu'aux barriques de bière Sagres pour les gardiens et leurs invités occasionnels. Et en cas d'accident grave, ben, un hélicoptère peut être envoyé. Oui, mais il faut 4 heures pour effectuer l'aller-retour entre Madère et les Selvagen. Donc autant vous dire qu'il ne faut mieux pas avoir une crise cardiaque sur les îles sauvages. Hein. Mais loin de tout, le gardien de Selvagen Grande, il est loin d'être seul. Il est entouré par 40 000 puffins cendrés. Alors Nicolas, la technique n'y est pour rien, hein. Ce que vous entendez à l'instant, ce sont les puffins. Et leur cri, propre à inspirer plus d'un musicien contemporain qui se pique à l'héro pour scratcher à l'électro, peut-être même que dans le sous-sol du ministère de l'Intérieur iranien, sinistre, on utilise ce cri en boucle comme torture. Et il y aurait de quoi, hein, vous briser du Jean Moulin 13 à la douzaine. Hein. Alors imaginez, le gardien de Selvagen Grande, qui n'a même pas le droit de transformer le puffin en purée, l'espèce est protégée. Sans compter qu'avec le Cap Blanc, les îles sauvages sont le refuge d'une des deux seules colonies de phoques moines de la planète. Alors, le cri des puffins et celui des phoques, c'est quand même un drôle de mash-up, le genre de combo qui fait que, contrairement à ce que chante Madonna, « Not only girls gone wild ». Mais croyez-moi, quand les puffins s'envolent, en octobre, pour effectuer leur migration, l'île doit sembler bien vide et silencieuse aux gardiens, représentants esselés de la souveraineté portugaise. Et en attendant leur retour en février ou mars, eh bien peut-être se lancent-ils, oui, dans une chasse au trésor, c'est l'information insolite. On reste sur Selvagen Grande, donc, où un trésor serait caché. Le trésor d'un pirate, évidemment. Le trésor du capitaine William Kidd, parbleu, qui a écumé les mers et peut-être croisé des puffins, oui, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, en tout cas. Le capitaine Kidd, c'est un corsaire britannique, d'origine écossaise, exactement. Et à bord de l'Adventure Galley, équipé de 36 canons et avec 70 hommes à son bord, eh bien, de corsaire, il devient progressivement pirate, sans foi ni loi. Puisque le 30 janvier 1698, par exemple, il capture un navire anglais, le Quedda Merchant. We walked for hours in winter's arms, broke your ankle, you fell with pride. À l'instant, Captain Kidd sur Transistor et un extrait de We and I. Mais le capitaine Kidd, le pirate, hein, pas le chanteur, il est finalement capturé à bord du Quedda Merchant, rebaptisé Adventure Prize, et jugé. Il finit pendu au-dessus de la Tamise, haut et court, en guise d'avertissement, bien sûr, à tous les futurs pirates. Mais quand il fut capturé, on ne trouvera nulle trace du fruit de ses rapines. Et la légende veut que le trésor soit enterré quelque part, et peut-être à Selvagen Grande, dans la grotte qui porte son nom. Pour l'instant, rien n'y a été trouvé, excepté des coquilles d'œufs de puffins. Et le mystère demeure, relayé par la littérature, puisque de Poe et son scarabée doré à Stevenson et son îlot trésor, eh bien la littérature, elle a contribué à créer la légende du Captain Kidd et son Treasure, comme le chante Bruno Mars. Et je vous laisse avec ces idées en tête de trésor et la belle voix de Bruno Mars dans les oreilles pour conjurer les cris des puffins. Le temps de remercier Nicolas qui s'est occupé de la régie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau départ, quelque part autour de la Terre. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas de regarder le monde tourner. Mmh.